L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
Il faut voir en agriculture les mots qu'on emploie. Alors voilà, moi je suis un exploitant agricole. Exploitant. On exploite la terre, on exploite sa famille, on exploite. Quand on plantait une vigne avant, il fallait défoncer la terre. C'est vachement sympa comme on défonce. Non mais c'est d'une violence. Non mais c'est d'une violence extraordinaire dans les mots. Et du coup, ces pratiques, il fallait absolument les arrêter. Moi, quand j'ai planté ma première vigne, que j'ai fait que griffer le sol, personne ne croyait qu'il allait avoir une vigne qui allait pousser. Hein. Alors que si, la vigne, elle a poussé, elle s'est bien portée. Bon, Guy Andardé, Mas des Chimères à Aucton. J'ai commencé à travailler en 1974 avec mon père. Donc, je me souviens très bien, c'était une période où tout le monde partait de la vigne. Les uns après les autres, j'étais pratiquement le seul jeune à rester, à travailler avec mon père. J'ai passé de nombreuses années où j'ai été un militant syndicaliste, où je me suis beaucoup bagarré dans les comités d'action viticole. J'ai participé à un mouvement qui s'appelait le MIVOC, Mouvement d'intervention des viticulteurs occitans. C'était une époque au niveau social qui était énorme parce qu'on était dans une crise viticole qui était très importante. Il fallait se bagarrer parce qu'on était encore avec des règlements, des distillations de Bonnefaine, des aides au stockage. L'État était très très présent, pas à l'Europe, dans la vie des coopératives. En gros, il y avait trop de vin. Et du coup, il fallait tenir les prix du vin. Ça faisait partie du métier de viticulteur, c'est qu'une fois par mois, on allait manifester. On arrivait à être très très nombreux et on faisait un rapport de force avec l'État. Et l'État, au bout d'un moment, craquait et mettait en place une distillation à un certain prix. Et du coup, le marché remontait à ce niveau de prix. Et c'était le Midi Rouge. Alors je me suis installé, après moi j'ai été aide familiale pendant 10 ans, je me suis installé en 84 et à l'époque il fallait faire un dossier pour avoir des aides, ça s'appelait un EPI, étude prévisionnelle d'installation, waouh. Et dans ce dossier, en fait, il fallait montrer qu'avec les hectares qu'on avait, les hectos qu'on pouvait faire, que notre exploitation était viable. Et comme prix, on prenait le prix de la distillation. Ce n'était pas le prix du marché qu'on prenait. Et si avec le prix de distillation, votre dossier passait, vous étiez bon. Mais les copains arboriculteurs, c'était pareil. C'était avec le retrait. C'était avec des camions de pommes ou autres qui étaient bénés à la déchetterie. Et le prix que donnait l'État, ça faisait que votre dossier, il passait, si ça vous suffisait pour vivre, de mettre soit de virer votre vin en distillation, soit de virer vos pommes sur une décharge, si votre dossier passait, vous installiez. Alors à un moment donné, au gouvernement, il y a eu un ministre qui s'appelait JC, alors c'est pas Jésus-Christ, hein, c'est Jacques Chirac, qui a monté tout un plan de restructuration de la viticulture, hein. En nous disant, voilà, les cépages que vous avez dans le sud, vous faites que de la bibine. Et donc, on faisait que de la bibine. Donc, il fallait qu'on modifie toute la culture de la vigne. Et donc, ils nous ont fait des grands plans avec des primes d'arrachage, des primes de plantation et toute une restructuration du vignoble. Ils nous disaient qu'il fallait qu'on plante des cépages améliorateurs. L'autre mot qui était employé, c'était des cépages nobles ou des cépages aromatiques. Ça voulait dire que les nôtres étaient, nos cépages étaient ni nobles, ni aromatiques. On s'est aperçu très tard après, c'est qu'en fait, c'était beaucoup plus vicieux que ça. C'est que, évidemment, c'est celui qui paye qui commande. Alors, l'État nous disait, donc, je vais vous donner de l'argent pour planter de la Syrah, pour planter du Chardonnay et tout, mais vous allez faire des groupements de producteurs, ça sera des îlots. À certains îlots, on va mettre du chardonnay, à certains îlots, on mettra de la syrah, à certains îlots. Et ils nous donnaient l'alignement des rangées. Il fallait qu'on respecte un alignement, un écartement. En fait, au départ, on n'a pas vu la finalité. La finalité, c'était de passer à l'agriculture industrielle. Il y avait une prévision de carrément modifier tout le paysage viticole C'était vicieux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on était dans une période, c'était un vin aliment. C'est que les gens, les travailleurs et les travailleuses, ceux qui bossaient, ce qu'on appelait les travailleurs, c'est ceux qui bossaient physiquement, consommaient énormément de vin. Par jour, les gens, ça pouvait aller à 3, 4, 5 litres de vin par jour. Et c'était le vin aliment, c'était pas un vin culture. Et dans le Languedoc, il y avait très peu d'endroits où il y avait la culture du vin en tant que boisson. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert tard. C'est une culture du vin qui pour moi a été une découverte, parce qu'à la maison et chez mes parents, il n'y avait pas de culture du vin. Dans les coopératives, une fois par mois, on allait chercher ce qu'on appelait la buvette. Donc une fois par mois, tous les vignerons se pointaient à la coopérative avec qui son petit baricote, qui son bidon. On remplissait ça et pendant un mois, on buvait le vin de la coopérative. Alors petit à petit, dans le mois, le vin se piquait. À la fin, on buvait carrément du vinaigre, mais on ne s'en apercevait pas parce que comme on en buvait tous les jours, le choc n'était pas brutal. Le choc était brutal quand quelqu'un venait à la maison pour lui.
Parlez-nous un peu de votre exploitation. Alors, cet esprit de la culture du vin s'est infusé, s'est infiltré dans vos pratiques.
Ah, complètement. Alors là, on s'était mis à parler de qualité. Tout le monde parlait de qualité, mais on parlait. Dans les pratiques, c'était autre chose dans la coopérative. Je me suis dit, c'est pas possible, tu vas faire du vin. Mais un coup, je ne voulais pas partir de la coopérative. Je voulais faire un peu de vin. Et donc, en 93, je me suis acheté un peu de matériel pour faire du vin. En 93, j'ai fait du vin, un peu de vin. Donc, moi, à l'époque, je faisais 500 hectos de blanc de terrette. Donc, je me suis retrouvé vraiment en difficulté. Comme je faisais un peu de raisin de table, quand on faisait un peu de raisin de table, il y avait la coopérative de Clermont-Lérault qui ouvrait quelques jours avant la vendange pour les gens qui avaient des raisins de table qu'ils n'avaient pas vendus pour les amener à la coopé. Alors donc j'avais quelque part à la coopé de Clermont. Et je suis allé à la coopé de Clermont et je leur ai dit, voilà, j'ai 500 hectares de terrette et je ne peux pas les vinifier. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tu les amènes, on les prendra et on te donnera une pénalité, mais voilà. Clermont m'a vraiment tiré une épine du pied pendant un ou deux ans. Puis après, faire du tracteur pour amener des raisins à Clermont, ça ne m'intéressait pas, donc j'ai arraché les vignes. Et j'ai calmé le jeu sur l'exploitation. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à rentrer dans une démarche. Ils nous avaient tellement bourré le mou avec leur histoire de cépage améliorateur que la première année, donc en 93, j'ai vinifié que les cépages améliorateurs. La deuxième année, il fallait que je fasse quelque chose avec mon Carignan Monsenso. Donc je les ai vinifiés sans m'en occuper vraiment. Et dans l'hiver, il y a un journaliste, Jacques Dupont, qui est passé, qui travaille au Figaro. Je crois qu'il travaille encore, s'il n'est pas à la retraite. Et ce journaliste, il vient à la cave, et je lui fais goûter les vins, donc les vins améliorateurs. Et puis, il voit écrit sur des cuves, Senso, Carignan. Il me dit, mais vous ne me les faites pas goûter, celle-là ? Ah ben, je dis, si vous voulez, mais sceptique. Et je lui fais goûter, il me dit, mais c'est vachement bon. Putain, il nous avait tellement bourré le mou qu'on était persuadé que nos cépages, c'était même pas bon, quoi. Que ça pouvait être que médiocre. Et donc, moi, en 94, j'ai fait une cuvée que j'ai appelée le Yad, qui est un pur senso. Et j'ai fait une cuvée de Carignan. Il faut dire que quand j'ai quitté les coopératives, pour moi, c'était... j'avais l'impression de faire une trahison par rapport au village, d'abandonner tout le monde. J'ai rasé les murs pendant un an ou deux ans parce que j'étais pas fier de moi quand même, hein. Socialement, il faut savoir que socialement, la création des coopératives a permis de maintenir un réseau social excessivement important. Un village comme Octon, il n'y aurait pas eu de coopérative, je ne sais pas, dans les années 70, où il en aurait été, hein. Je pense, moi, un peu ma réflexion, c'est que comme tout, les organismes naissent, vivent, puis meurent. Je pense que il y a une période où la coopérative a pas su passer un cap. Alors, il y a des coopératives qui existent encore. Il y a des coopératives qui l'ont fait. Il y a quelques coopératives qui font du très bon vin. Les groupements de producteurs, c'est carrément autre chose parce que alors là, on est passé dans une autre dimension. Mon père était président de la coopérative d'Octon. On faisait l'assemblée générale à Octon. La coopérative d'Octon, les bonnes années, c'était autour de 30 000 hectos. Maintenant, Octon est rentré dans un groupement de producteurs qui s'appelle Occitane, qui fait 250 000 hectos. Donc, plus rien à voir. À l'époque, le conseil d'administration de la coopérative d'Octon était à même de gérer la coopérative parce que c'était des sommes et des volumes qui correspondaient à quelque chose de familial. Quand on passe à 250 000 hectos, à ce moment-là, c'est une entreprise et c'est les administrateurs qui gèrent. Hein. Donc, il y a quelque chose qui a joué un rôle très important pour moi en 1993, quand j'ai quitté la coopérative, c'est qu'à l'époque, il y avait les coteaux du Languedoc, ça s'appelait coteaux du Languedoc, là où c'est coteaux du Languedoc, où encore, ce n'était pas un énorme truc. Et ces coteaux de Languedoc, à Montpellier, organisaient des salons, organisaient des rencontres avec des journalistes et tout ça. Donc, ça nous a permis d'ouvrir un peu au monde. 94-95, on s'est retrouvés dans le Go et Mio, la revue Go et Mio. Et on était trois en photo dans le Go et Mio. Et du coup, ça démarre.
Alors, comment vous les cultivez, ces vignes ?
Voilà, on était dans une période, quand je suis parti de la coopérative, donc on a parlé de qualité. Il y avait des gens qui émergeaient un peu partout en France, qui parlaient du sol, de la terre, qui écrivaient des livres dessus. Quand j'étais au lycée agricole, j'ai le souvenir, même si j'écoutais pas beaucoup, où on avait l'impression qu'on savait tout de la terre et de la plante. C'était des trucs mathématiques. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne sait rien. On ne sait rien de la vie de la plante, on ne sait rien de la vie de la terre, où on commence à appréhender. On commence à appréhender cette... Et quand on fait ce vin, on se dit que son vin, c'est la terre qui l'a fait, le vin. Mais surtout, c'est fou, parce que si c'est la terre qui nourrit la vigne et qui nourrit les raisins et qui fait le vin, ça veut dire que si on balance des produits sur la terre, elle se retrouve dans le vin. Et c'est au caveau, là, quand j'ai des gens, et à l'heure actuelle, de nouveau, il y a une espèce de suspicion sur le bio. Et les gens me disent, mais c'est quoi être en bio ? Je dis, écoutez, il y a trois trucs déjà. Il y a un, on n'a pas le droit d'employer d'engrais solubles. Après, désherbant, interdit les désherbants chimiques. Et l'autre truc, c'est par rapport aux produits de traitement de la vigne, par rapport au mildiou et à l'odium. Nous, on emploie deux produits pour l'odium, c'est le soufre. Le soufre n'est absolument pas nocif pour la vigne. Alors, il est nocif pour le vigneron, parce qu'il ne faut pas en inhaler, ça brûle. Et après, il y a le cuivre pour la bouillie bordelaise, avec du cuivre contre le mildiou. C'est du cuivre. Donc ça, c'est un métaux lourd. Et il faut en employer le moins possible parce qu'il se stocke dans le sol. Par contre, par rapport aux gens, il est très peu nocif. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des graniums de cuivre. Pour ceux qui se soignent en homéopathie, ils savent ce que c'est. Bon, notre organisme en a besoin. Évidemment qu'il ne faut pas boire des tasses de cuivre, c'est évident. Mais bon, voilà. Et c'est des produits de contact. Et ces produits existent depuis que la maladie existe. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs siècles et qu'ils sont toujours efficaces. Mais maintenant, dans le commerce, on trouve des produits de synthèse qui sont interdits en bio, qui sont des produits systémiques. Ça veut dire qu'un produit qui est systémique, c'est qu'il est absorbé par la plante et il est véhiculé par la sève. C'est-à-dire que le produit que vous balancez sur la vigne, vous le retrouvez automatiquement dans le raisin. Ces produits, il faut savoir que la même molécule, normalement, ne doit pas être utilisée plus de trois fois, parce qu'en fait, le mildiou le contourne. Et on se trouve dans un truc de fou, parce que le vin conventionnel, le vin HVE qui utilise tous ces produits, ce n'est pas anodin. Et pour moi, la qualité, la première des qualités, c'est, je me suis dit, c'est la terre qui me nourrit en fait. Et depuis les années 90 et tout, je m'interroge par rapport à respecter au mieux la terre pour qu'elle me donne le meilleur vin.
Alors, vous parlez de l'importance de la terre. Comment vous la nourrissez, vous, votre terre ?
Ah, moi, je n'en nourris pas. Moi, je lui donne les moyens de s'enrichir toute seule. C'est ça l'idée. En fait, une terre, il faut de l'humus. Étonnant, moi, j'ai acheté des vignes qui étaient en chimie totale. La terre, elle était comme le dessus de cette table. Et alors, la première année, il n'y a pratiquement rien qui poussait. Je me disais déjà, ben, putain, ils sont bien cons de désherber tous les ans, vu que la deuxième année, il n'y a pas d'herbe. Et après, qui c'est qui arrive ? C'est les carottes sauvages. Parce qu'il faut des plantes qui aient des pivots pour décompacter. Et les plantes font le boulot. Si on leur laisse la possibilité, elles font le boulot. Et après les carottes, il y a les légumineuses qui viennent. Les légumineuses, c'est des plantes qui vont capter l'azote de l'air et qui vont le mettre à la terre. En fait, la plante qui va quelque part, qui nourrit le sol en même temps qu'elle est nourrie par le sol. Cette vie du sol, quand on trouve un équilibre, la forêt, quand vous marchez dans une forêt qui a été laissée en paix, hein, mais déjà c'est souple, Déjà, c'est souple. Vous marchez dans une forêt, la terre est souple. Vous allez dans les vignes désherbées, c'est du béton.
Comment on passe du bon raisin ou du raisin de qualité au vin? Parce que là aussi, il y a des façons de vinifier qui sont plus ou moins vertueuses, non?
Dans les évangiles, il y a les noces de Cana où il y a Jésus qui transforme l'eau en vin. Alors là, on se rapproche doucement de la winerie. Hein. Là, ça craint quand même. Transformer l'eau en vin, c'est plutôt les coopératives, ça. Et puis, à la fin de sa vie, quand même, il a compris, il a vécu 33 ans, mais il y a certaines choses qui ont été acquises. Et là, à la scène, il parle « Ceci est mon sang, prenez et buvez ». Et là, on est plutôt dans nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un vin qui est un produit qui fait vivre, mais spirituellement, intellectuellement aussi.
C'est un vin de messe que vous faites?
Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le vin de messe était obligatoirement bio. Hein. Ça, personne ne le savait. Avoir une pratique vertueuse par rapport, pour passer du raisin au vin, c'est pareil qu'avec la terre. C'est que moins on en fait, meilleur le vin est. Parce qu'en général, quand on fait, c'est qu'on rattrape un truc. Alors, il faut prendre la définition du vin. Le vin est le résultat de la fermentation du jus de raisin. Il y a des vins dans le commerce, on l'a oublié ça. Hein. C'est pas le résultat de la fermentation du jus de raisin. C'est une boisson. C'est un truc auquel on a fait des trucs. Mais là, nous, on prend les raisins, on les met dans la cuve. On a préparé un pied de cuve parce que pour transformer le sucre en alcool, il faut des levures. Alors, il y a un truc, un chiffre tout bête. 17 grammes de sucre font 1 degré d'alcool. Il faut savoir que le vin, c'est jus de raisin, vin, vinaigre, la biologie. Nous, on ne souhaite pas avoir des cuves pleines de vinaigre, on souhaite que ça s'arrête au vin. C'est les levures qui font le vin, c'est les bactéries qui font l'acidité, l'acide volatile. Donc, il faut favoriser les levures. Dans la bagarre levure-bactérie, que ce soit les levures qui gagnent. Sur le marché, vous pouvez acheter toutes les levures possibles et imaginables qui ont été sélectionnées par les uns et les autres. Mais chez les vignerons qui travaillent d'une façon naturelle, en fait, on fait un pied de cuve 4 ou 5 jours avant l'avantage. On va chercher des raisins à la vigne, on les presse, on les met dans une condition idéale pour les levures. Alors, une condition idéale pour les levures, c'est une température de 24 degrés à peu près. Et c'est avoir un jus de raisin qui a un potentiel de 12 degrés d'alcool. Et là, les levures, elles vont être en pleine bourre, en pleine forme et tout. Donc, on a fait ce pied de cuve il y a 3-4 jours. On rentre les raisins, on met le pied de cuve qui a commencé à fermenter, qui est en pleine bourre, dans la cuve. Et là, la fermentation, elle part à fond. Et à partir du moment où il y a la fermentation qui a démarré, le vin est protégé et le jus est protégé. C'est du levain. Ça lance le truc, quoi. Ça, et c'est facile de le contrôler sur 100 ou 200 litres. C'est assez facile. C'est pour la température.
Mais c'est une technique vieille, ça?
Ancestrale.
Ancestrale.
Mais oui, parce que des levures, il y en a partout. Mais évidemment, l'industrie et la chimie s'est approprié le truc. Alors c'est là qu'on parle de terroir, c'est là que le terroir intervient. Souvent on critique un cépage, il y a des modes. Alors à un moment donné, on dit, à un moment donné, dans les années 2000, tout le monde voulait boire de la Syrah. Maintenant la Syrah, presque, il faudrait la jeter à la rivière. C'est des conneries. En fait, le truc, c'est d'avoir le cépage qui est adapté au sol.
On a justement décalé cette histoire de cépages et de territoires au point qu'on met des cépages qui ne sont pas adaptés et qu'il faut arroser parce que c'est des cépages qui ont besoin d'eau, par exemple. Est-ce qu'il ne vous paraît pas hérétique d'arroser les vignes, par exemple?
Alors moi, non. Moi, je ne trouve pas ça du tout hérétique parce que la vallée du Salagou, c'est une vallée qui est très pauvre. Au niveau agronomique, c'est une vallée qui est quand même vachement pauvre. Et toute la vie, on a pleuré l'eau à Octon. La petite rivière qui traverse Octon, l'eau avait été canalisée et ça existe encore. Il y avait un béal d'arrosage avec des heures d'eau. Et chaque parcelle avait des heures d'eau et les gens ont arrosé. Moi, au début, quand je... Quand je travaillais dans la rivière Salagou, on essayait de mettre des pompes. Il y avait beaucoup de nourria pour récupérer l'eau. Moi, il y a un mas où on avait un mas où il y avait une nourria, il y avait une mule qui tournait et qu'il faisait monter l'eau. Et il y avait des poteries en terre qui amenaient l'eau au bout de la parcelle. Le camping Les Arcades, ça s'appelle Les Arcades parce que en fait, il y avait une éolienne, pas pour faire d'électricité, hein. Pour remonter l'eau de la rivière Le Salagou dans des bassins. Toute la vie, ici, on a pleuré l'eau. Alors, l'eau, pour moi, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise. 2022 a été le type même de comment on fait avec l'eau. En mars 2022, le deuxième week-end de mars, il est tombé 300 mm d'eau. Le week-end d'après, il est tombé 100 mm d'eau, 400 mm en mars. Il n'y a aucune terre qui peut emmagasiner 400 mm. L'eau est partie au lac. Et puis, plus d'eau. Il ne pleut plus. Et donc, pour moi, reprendre l'eau du lac qui est tombée en mars, la reprendre pour la mettre dans les vignes en juillet, pour moi, ce n'est pas une hérésie. Alors, après, la problématique se pose, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de l'eau ? Parce qu'il y a des gens avec de l'eau... Ils font des hectos. Avec de l'eau, on peut faire de la qualité. Parce qu'un sol qui est sec n'a plus de vie. Hein. Il n'y a plus de vie microbienne, il n'y a plus la vie. Un sol qui est complètement sec, il n'y a plus de vie. Donc, c'est important que le sol soit humide pour rester actif. Par contre, ce que vous pouvez faire avec l'irrigation, c'est que vous pouvez nourrir aussi. Donc, vous mettez un appareil dedans, un diffuseur, et la plante, elle croit boire, et en fait, elle mange. Elle boit et elle mange. Et du coup, elle devient obèse. Et comme toutes les plantes obèses, eh bien, comme les gens, eh bien, elles sont plus malades. Elles sont plus sensibles aux maladies. Par contre, l'eau, déjà, un, il y a les bassines. Les bassines qui vont chercher l'eau dans les nappes phréatiques. Alors ça, c'est un gros problème. Et l'autre problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette eau qui ont été mise dans des bassines. Si c'est pour faire du tournesol, ou du maïs pour faire marcher les voitures, là, il y a un gros, gros problème. Non, mais il y a un gros, gros problème, il ne faut pas déconner. On n'utilise pas des terres pour faire du pétrole, quoi. Et après, là, en ce moment, moi, il y a une problématique quand même, il y a quelque chose qui m'interroge. Est-ce qu'on va arroser les vignes pour après demander une distillation parce qu'il y a trop de raisins? Il y a un truc, quoi.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas arroser trop les vignes, en fait. C'est ça. C'est un équilibre.
Qu'est-ce qu'on fait de l'eau? L'eau, il faut essayer de la stocker. La première chose pour la stocker, c'est qu'elle soit stockée dans le sol par des pratiques vertueuses par rapport au sol. On peut aider un sol qui a de la matière organique, un sol qui a de l'humus, garde l'eau. Mais après, quand on se retrouve avec, comme en 2022, où il tombe 400 mm dans un mois, et puis qu'il ne pleut plus jusqu'à la fin août, reprendre l'eau et l'utiliser, c'est le minimum.
Donc vous expérimentez en permanence.
Ah ouais,
en fait.
Et puis j'aurai jamais assez d'une vie.
Et comment vous faites quand vos plantes sont malades?
Alors je fais en sorte qu'elles ne soient pas malades. Déjà, on fait en sorte qu'elles soient... Mais ce matin, je suis allé passer la bouillie bordelaise. Ce matin, j'étais sur mon tracteur. Alors je mets des doses très légères. Il faut savoir qu'en bio, on est autorisé à 4 kg de cuivre pur par hectare. Moi, là, j'ai calculé sur mes traitements. À l'heure actuelle, je tourne autour de 350 g par traitement, par hectare. En fait, ce qui compte, ce n'est pas les doses qu'on emploie, c'est le moment. Voilà.
Mas des Chimères à Auxon, où on peut se procurer ce merveilleux breuvage.
À New York, à Tokyo, nos circuits de vente, c'est on a, nous, au caveau, on fait un tiers du chiffre, c'est énorme. Après, on a les cavistes en France, alors là, ça a proliféré aussi. Hein. Moi, je vois à Clermont-Léraud, il y en a deux, à Lodève, il y en a un ou deux, des cavistes, il y en a, et puis on vend à l'export. Normalement, les années où il n'y a pas de soucis, c'est 60 000 bouteilles. Alors moi je vais vous dire un truc qui est quand même important par rapport au bio, c'est que nous on est en bio et il faut qu'on paye pour se faire contrôler. Donc non mais quelque part on se dit tiens la politique agricole bio de la France est intéressante parce que ce n'est pas ceux qui utilisent des produits qui sont contrôlés sur les produits qu'ils emploient, ce sont ceux qui n'en utilisent pas, qui doivent prouver qu'ils n'en utilisent pas. Et on paye, hein, c'est pas l'État qui paye, c'est nous. Donc ça donne une idée de comment on oriente l'agriculture. Et pendant le premier confinement, notre cher président, le tout premier, qui va en Bretagne, en avril, dans une ferme de tomates, production de tomates, en Bretagne, en avril, et qui dit la ferme France qui nourrit les Français. Non mais.
Et alors attendez, non mais pour revenir, peut-être parler juste de l'exploitation et voir les perspectives, non mais familiales, etc.
Oui, voilà. Moi je voudrais parler des gens. Un petit truc sur les gens. Nous, on tourne autour de 20 hectares de vignes, et au Mas des Chimères, alors il y a ma femme qui travaille avec moi, il y a ma fille, donc déjà familialement on est trois temps pleins. Et puis, on a Simon, on avait Yann là qui vient d'arrêter, donc on a pratiquement deux permanents de plus, donc ça veut dire qu'on est cinq permanents pour 20 hectares. En chimie, une personne fait 20 hectares. Facile. Et en plus, on a des saisonniers. Au printemps, on a des gens qui nous aident pour débourgeonner, parce qu'on débourgeonne manuellement. À vendange, on fait les vendanges à la main. Et il faut savoir que le Mas des Chimères, qui fait un chiffre d'affaires d'autour de 400 000 euros, sort chaque année plus de 150 000 euros de salaire et de charges sociales. Et moi, quelque part, ça me fait plaisir. Parce que je pense que donner du travail aux gens, les payer et les déclarer, je pense que c'est une richesse.
Et alors, les perspectives un peu, vous, du Mas des Chimères?
Alors, moi, j'ai un souci, je suis un déprimé climatique. Je suis quelqu'un de plutôt pessimiste, mais un pessimisme avec un côté positif, parce que ça ne m'a jamais empêché de faire quelque chose. Mais là, vraiment, les dernières années qu'on a passées et les années qu'on passe là, on est dans un climat chaotique, c'est impressionnant quoi. Moi, je ne sais pas s'il y a 15 ans, il y aura de la vigne à Octon. Hein. J'essaie de faire des trucs. Alors, cette année, j'ai semé des lentilles, j'ai semé des pois chiches, je sème du blé, mais du blé, des variétés anciennes pour faire du pain. J'adore faire pousser des trucs. Et c'est pour ça que je dis que j'aurai jamais assez d'une vie, quoi. Quelque part, moi, je trouve que le végétal, la terre et tout, c'est vachement bien. Et ça fait du bien.
C'était Guillaume Dardet. Du Mas des Chimères, un portrait d'agriculteur réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Tous les podcasts sur rphfm.org.